Radio Okapi. Journal présenté par Patience Ngaloula.
Au sommaire, à Beni, la Fédération des entreprises du Congo appelle la population à ne pas quitter leur village après la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis. Elle recommande par ailleurs au gouvernement d'éradiquer l'activisme du M23 dans les Grands Nord Kivu. Province du Tanganyika, plus de 80 détenus de la prison centrale de Manono se sont évadés dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont réussi à s'échapper après avoir creusé un tunnel, affirment les porte-parole de la société civile de Manono. L'invité de ce matin est le directeur général de l'Office belge des étrangers. Freddy Rosemont parle des conditions légales des migrations vers la Belgique. Bonjour, ce journal part du Nord Kivu. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, groupement territorial de Butembo Lubero, appelle les gouvernements à s'impliquer pour mettre fin à la rébellion du M23 après la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis depuis 10 jours. Polycarp Ndivito Kikwaya, président de cette structure patronale locale, l'a dit dimanche à Butembo au ministre de l'Intérieur qui conduit depuis samedi une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région de Butembo, Beni et Lubero. On l'écoute dans cet extrait choisi par Sadiki Aboubakar.
Le gouvernement a ses obligations, nous payons les impôts et taxes, qu'ils prennent l'argent, tout l'argent qu'il y a pour que la guerre s'arrête. Après la trêve, les dîners, on ne va plus fuir. Il ne faut pas qu'on soit obligé de fuir. Ça doit s'arrêter. Et il a dit que, heureusement que le vice-ministre de la Défense est là et tous ils sont en train de collecter toutes les idées de la société civile et des confessions religieuses et de tout le monde pour capitaliser ça et prendre des mesures qui seront efficaces pour qu'il n'y ait plus d'erreurs. Il dit qu'il est nécessaire, il est venu écouter et que nous pouvons compter avec Kinshasa, la guerre va s'arrêter. Il faut que Kinshasa fasse un signal de compassion. Nous sommes sinistrés. Les contrôles, oui, nous sommes d'accord avec les contrôles. Il ne faut pas que la province également envoie des taxes conventionnelles sans nous avoir consulté. Tout ça, nous avons dénoncé. Nous avons délié les langues et nous espérons que ça va s'arrêter.
Dans la ville de Beni, toujours au Nord Kivu, malgré des années de guerre et d'atrocités, malgré les déplacements fréquents des populations qui fuient l'insécurité dans leur milieu, la vie n'est certainement pas en rose, mais elle est vécue. Grâce à la résilience des habitants, la ville de Beni sort lentement mais sûrement de la perception selon laquelle on ne vit pas à Beni. Il semble relégué au passé les temps où presque toutes les activités socio-économiques s'arrêtaient à 19h à cause de l'insécurité. Depuis une année, la vie et l'économie locale reprennent petit à petit leur cours normal. Boutiques, supermarchés, bars et restaurants ouvrent jusqu'à tard dans la soirée. Mais la vigilance reste de mise. C'est ce que Sadiki Aboubakar nous raconte dans ce reportage conçu par Jean-Tobi Okala.
Nous sommes sur le boulevard Nyamouissi, la principale artère de la ville de Beni. Il est 0h. Certes, la circulation n'est pas intense, mais des quelques voitures sont perceptibles sur le boulevard, ainsi que quelques mototaxis. On y trouve même des vendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, au bord de la route. Des années de violences aveugles et d'atrocités ont donné à cette ville de plus d'un million d'habitants une mauvaise réputation. Attentats perpétrés par des rebelles des ADEF, insécurité urbaine, pour beaucoup, il n'y avait plus la vie à Beni, devenu un endroit où l'on ne pouvait plus vivre. Pourtant, le dynamisme des populations et surtout leur résilience ont permis à cette ville de rester debout. À quelques mètres du rond-point Nyamouissi, on trouve à cette heure tardive des restos-bars et dancing-clubs ouverts. Au dancing-club Ishango par exemple, il y a de la vie. En dépit de la guerre et des tueries de masse, nous avons droit à la vie. C'est ce que dit cet homme rencontré au dancing-club.
On est en train de se distraire un peu. On est censé vivre à part des massacres.
Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Par ailleurs, une hausse du prix du charbon de bois est observée dans différents marchés de la ville de Beni depuis un mois. La rareté de la braise est à la base de cette situation, expliquent les vendeuses qui mettent également en cause l'insécurité dans la région. C'est un reportage d'André Kitenge.
Ici, au petit marché de Brest de Mayango, c'est dans le quartier Boïkéné, le prix du charbon de bois a presque doublé depuis un mois. Un sac qui coûtait entre 35 000 francs congolais et 40 000 se vend actuellement à 90 000 francs congolais. L'insécurité dans certaines zones de fabrication est à la base de cette situation, témoigne Louise Massika, vendeuse de charbon de bois.
Nous achetons un sac à 75 000 et nous vendons à 80 000. Avant la guerre, nous achetions à 40 000, mais avec la guerre et les sécurités, le prix a commencé à augmenter. Ceux qui se rendent dans la forêt ne sont plus nombreux et craignent les sécurités. C'est pourquoi le prix de braise a augmenté.
Cette situation impacte négativement le quotidien de certains ménages et même des restaurants où l'on fait recours au charbon et bois pour la préparation de certains types de plats. Angèle Azania, propriétaire d'un restaurant de Béni, explique.
Avant le prix de la braise, on achetait un sac à 35 000, 40 000. Mais actuellement, on est arrivé à 85, parfois on arrive même à 100. C'est vraiment difficile pour nous, les restauratrices. Et puis même à la maison, avec la situation actuelle, il n'y a pas de courant pour utiliser. Les gaz coûtent cher.
Le charbon de bois est utilisé dans plusieurs ménages et restaurants de Béni. André Kitenge, Béni Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu, où les mouvements des Congolais initiés pour le développement exigent la stabilisation du prix des transports en commun dans la ville de Goma. Le MCID a initié depuis quelques jours une pétition à ce sujet. C'est en vue de récolter les signatures dans la communauté et soumettre une correspondance à l'autorité urbaine. Selon les chefs de file de cette structure, les taxis, bus ou voitures n'ont plus un prix fixe quand il s'agit des courses du milieu de la journée ou celles des heures de pointe. Gladys Kingombe l'a dit ici au micro de Bernardin Nyangui.
Ça fait un bon moment que nous constatons que le prix des tickets de bus ne cesse d'augmenter et sans aucune bonne raison, toujours à partir de 15h. Cela bascule automatiquement à 1500 francs, parfois 2000 francs pour le même trajet. C'est inconcevable et pénible pour le petit peuple qui souffre déjà avec l'inflation et l'instabilité du taux d'échange. Le peuple lambda dépense plus ou moins 78 000 francs chaque mois seulement dans le transport, en lieu et place de dépenser 52 000 francs si le prix des tickets des bus restait stable à 1 000 francs. Vous imaginez la souffrance des gomatraciens. Alors, nous, usagers de transport en commun dans la ville de Goma, demandons que le prix des tickets des bus et des taxis soit fixé à un prix stable et abordable. Nous remercions la population de Goma qui a participé activement à cette initiative citoyenne. Nous avons déjà recueilli 4000 signatures en une semaine et nous allons déposer cela auprès des autorités compétentes la semaine prochaine.
Nord Kivu encore, quelques dizaines d'habitants sont sans abri à la suite d'un incendie qui est survenu hier dimanche dans la soirée sur les avenues d'Ikuta et Inyamaseko. C'est au quartier Kasika, commune de Karisimbi, en ville de Goma. Certaines victimes pensent que la cause serait liée à un court-circuit consécutif à une mauvaise installation du courant électrique sur l'avenue Inyamaseko. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, excepté les dégâts matériels énormes. Un cadre des bases s'est réjoui du fait que l'intervention de la MONUSCO a réussi à stopper la propagation du feu et à limiter les dégâts. Christophe, chef de l'avenue du Kuta, dans ses propos recueillis par Alain Wandimoï.
Nous avions été menacés par l'incendie du feu. Il y a plusieurs maisons qui ont été calcinées. Ce qui est base de ces feux, nous n'avons pas encore bien identifié la chose en question. Mais nous sommes en train de passer à l'étude, voir si nous serons capables d'identifier où est venu le feu. Mais le feu est venu justement dans l'avenue Nyamaseko. Le feu a pris des maisons. Nous avons appelé mairie. Et justement, l'eau était insuffisante. La MONUSCO est venue aussi intervenir. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs maisons qui ont été incendiées. Mais à l'aide de véhicules de MONUSCO, la MONUSCO a essayé un peu d'éteindre le feu. Et c'est comme ça qu'à présent, vous nous voyez, il y avait des feux qui menaçaient vers d'autres maisons. Mais actuellement, Dieda, le feu est presque à sa fin.
Rappelons qu'un autre incendie s'est déclaré pendant les mêmes heures, hier dimanche, au quartier Imbi, où une seule maison est partie en fumée. Province du Tanganyika, évasion de tous les détenus de la prison centrale de Manono dans la nuit de dimanche à lundi. D'après les porte-parole de la société civile de Manono, plus de 80 détenus se sont échappés après avoir creusé un tunnel. L'abbé Moïse Kilouba demande à la justice d'établir les responsabilités et sanctionner les coupables. Il est joint par Paulin Munanga.
On a entendu vers 20h les crépitements des balles et on se réveille le matin, on nous parle de l'évasion des 81 prisonniers. Et donc toute la prison de Manono, la prison centrale, s'est vidée de ses détenus. Et il n'y a aucun détenu. En faisant la patrouille la nuit, les patrouilleurs ont ramassé un détenu qui n'était pas encore condamné, mais qui est taxé de vol à main armée. Et un autre qui avait tué son père. Et ce sont ces deux personnes-là qu'on a retrouvées dans les 81. Les prisonniers ont creusé un trou à partir de la prison jusque dehors. Et le trou de 3 m 20, 3 m 40 de profondeur. Et puis ils ont remonté encore pour émerger sur la surface. Nous avons trouvé que c'est une négligence, que vraiment les services de la justice s'impliquent pour établir la responsabilité de tout et chacun.
À Kananga, les députés provinciaux sensibilisés sur les mandats de la commission Paix, Vérité, Justice et Réconciliation CPVJR Kasaï Central. Cette activité a été organisée hier lundi avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH et Trial International. L'initiative vise à obtenir la prorogation du mandat de cette institution appelée à faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la région du Kasaï lors des événements de Kamouina-Sapou. François Kadima nous en parle.
La CPVJR Kasaï Central a été mise en place à travers un édit adopté par l'Assemblée provinciale. Cela à la suite des violences liées au phénomène Kamouina-Sapou entre 2016 et 2017 dans la région du Kasaï. Les consultations populaires avaient été organisées par le gouvernement provincial et les communautés s'étaient exprimées sur les besoins de vérité, de justice, des réparations, des garanties, des non-répétitions et des préventions de nouveaux conflits. Ce travail devrait être réalisé par la CPVJR. Mise en place et investie pour 3 ans en 2022, cette commission, dont le mandat se termine ce 15 juillet, a besoin de le voir renouvelé après avoir connu un retard dans son opérationnalisation pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la région du Kasaï. Devant les députés provinciaux, la vice-présidente de cette commission, professeure Joséphine Bitota, a indiqué que la CPVJR est désormais prête à entamer ses activités opérationnelles. Le président de l'Assemblée provinciale a, après avoir suivi ses plaidoyers, souligné la nécessité de la prorogation du mandat de la CPVJR. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans la province du Haut-Ouélé, la synergie de la société civile s'est dit inquiète de l'exploitation de l'or par des coopératives assistées des experts chinois et autres dans des sites miniers de cette entité. Cette exploitation, dit-elle, détruit l'écosystème et ne contribue nullement au développement de cette province. En conséquence, elle demande au gouverneur des provinces de suspendre ses exploitations sur toute l'étendue de la province du Haut-Ouélé. Jacques Moukonkolé.
Cette demande est contenue dans une déclaration publiée ce week-end par toutes les associations de la société civile du Haut-Ouélé. Dans ce document, la synergie précise que cette exploitation tant décriée ne contribue ni au développement de la province ni à l'amélioration du vécu quotidien de la population affectée par cette exploitation. Monsieur l'abbé Georges Semende, porte-parole de la synergie de la société civile du Haut-Ouélé.
La synergie de la société civile de la province du Haut-Ouélé constate l'usage abusif des engins lourds non identifiés, lesquels détruisent les forêts, polluent les eaux, appauvrissent les sols, brisent les ponts, créent des puits non remblayés, causant des morts d'hommes, souvent par noyade. Et la statistique de production de l'or n'est pas maîtrisée.
La synergie se rend également compte que le protocole d'accord n'est pas exécuté et que les exploitants bénéficieraient de la complicité de certaines autorités à Kinshasa. Au regard de ce tableau sombre, elle demande au gouverneur des provinces de suspendre ses activités sur toute sa juridiction en attendant l'identification de toutes les coopératives et de leurs expatriés. Faute de quoi, des actions citoyennes de grande envergure seront entreprises, prévient-elle. Cependant, le gouverneur de province Jean Bakomito n'a pas encore réagi. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, un suspect arrêté dans l'enquête sur les corps des femmes retrouvées dans une décharge des Kware à Mukuru, un bidonville de la banlieue de Nairobi, a annoncé la police ce 15 juillet 2024. Il s'agit d'un homme de 33 ans qui a confessé le meurtre entre 2022 et le 11 juillet dernier des 42 femmes, dont la sienne, ont déclaré les forces de l'ordre. C'est à la suite des transactions mobiles monnaie d'une des victimes qu'il a été arrêté, ont-elles précisé. Les bilans s'élèvent désormais à 9 victimes retrouvées pour le moment, toutes des femmes.
L'invité.
La Belgique fait face pour le moment à une augmentation considérable des demandeurs de protection venant de la RDC. Le directeur général de l'Office belge des étrangers, OEB, en séjour à Kinshasa, affirme avoir enregistré en 2023 plus de 1200 nouvelles demandes de protection. Dans cette interview exclusive à Radio Capi, Freddy Rosemont souligne que ces demandes sont systématiquement rejetées et les personnes finissent souvent par vivre dans la clandestinité sans bénéficier d'aucune une aide financière avant d'être retourné au pays. Le DG de l'OEB, Freddy Rosemont, est l'invité de Radio Capi. Il est interrogé par Michel Kifindangoy.
Monsieur Freddy Rosemont, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, comment évaluez-vous la coopération bilatérale entre l'OEB et la DGM en particulier, et en général entre la Belgique et la RDC en matière de migration?
La coopération est excellente. Avec le DGM, on a un service frère avec lequel on échange les procédures, qu'on invite les fonctionnaires à suivre des formations, qu'on essaye ensemble de construire aussi ici en Congo un nombre de bâtiments post-frontaliers pour améliorer notre travail en Belgique, mais aussi en Congo. Et c'est quelque chose qui, entre-temps, date d'il y a plus que 15 ans. On a signé un protocole d'accord en 2006, un en 2013. Donc, il y a vraiment une collaboration tout est droit.
Et justement, en 2006, au moment où la Belgique signait le mémorandum avec la RDC, l'immigration clandestine des jeunes Congolais était devenue une monnaie courante. Quel est le problème que vous aviez constaté en ce moment-là?
Le problème est que les gens sont mal informés. Ceux qui ont déjà fait le voyage, tellement personne ne veut avouer que c'est un échec. Présentent leur situation individuelle beaucoup plus positive que ça en réalité. Donc, ils envoient des photos avec une grande voiture, une belle maison, mais ça parle à l'heure. Parce que la situation des gens qui viennent en Belgique sans procédure légale, sans document de séjour, est assez difficile. Pas de travail légal, pas de soins de santé, pas de logement offert par l'État. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens qui veulent avoir une meilleure vie n'expectent pas.
Et du coup, pendant cette période, il vous arrivait de recevoir environ combien de migrants clandestins par an?
Les vagues, ce sont des vagues qui ne croisent pas toujours. Mais en moyenne, on a vu les dernières années une augmentation des demandeurs d'asile congolais. En 2021, on avait 360. En 23, on avait 1220. Aujourd'hui, les 6 premiers mois de 24, on a déjà dépassé les 650. Ça veut dire que si on prend pour toute l'année, on va arriver à 1300-1400 demandes.
Et quel état des lieux faites-vous de la situation migratoire aujourd'hui?
Aujourd'hui, le Congo est le numéro 6 sur notre liste de pays de demandeurs d'asile. Mais les 5 premiers, ce sont des pays d'où le taux de décision positive est beaucoup plus élevé, pour ne pas dire extrêmement élevé. Tu as d'abord la Palestine, et donc le Congo est le premier pays d'où le taux de décision positive est très faible. C'est aussi pour quoi le gouvernement belge a décidé l'année passée d'introduire pour eux et pour quelques autres pays comme le Moldavie et le Géorgie, d'introduire un fast-track procédure, une procédure rapide, toujours traitée vite.
Que faire pour immigrer régulièrement?
La législation prévoit 3 grands groupes de migration légale. C'est d'abord le travail, c'est les études et c'est le regroupement familial. Et ça, vraiment, si vous remplissez là les conditions, on va pas vous dire non. Au contraire, on va vous accueillir, on va être très enthousiaste que vous venez.
Nous avons reçu de plus en plus de plaintes de voyageurs qui disent avoir des difficultés d'obtenir un rendez-vous à l'ambassade quand ils introduisent la demande des visas. Est-ce que cette difficulté d'obtenir le rendez-vous est justement édictée par votre politique de gestion de flux migratoires?
Non, pas du tout, mais c'est réel. En effet, le problème est réel. La cause est que les agences de voyage, au moment qu'on ouvre des possibilités pour avoir le rendez-vous, que les agences de voyage le monopolisent directement et le vendent après aux gens.
Et dans l'opinion, on pensait que c'était l'ambassade de Belgique qui organisait cette tournure pour décourager les voyageurs. Est-ce qu'en est le cas?
Non, pas du tout. Il n'y a aucun lien entre l'ambassade de Belgique et les agences de voyage. Vraiment aucun. Non, on veut éviter justement les agences de voyage parce que avec ça, le contenu d'une demande de visa va être beaucoup plus correct que c'est maintenant. Et ça, c'est le conseil au public. N'écoute pas aux agences de voyage. Faites votre demande vous-même.
Freddy Rosemont, je rappelle que vous êtes directeur général à l'Office belge des étrangers. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information. Debs Vita, la mise en onde sous la supervision et coordination de Pelekipe Lamondo. Patience Ngalula Mbombo à la présentation. Merci à vous tous de nous avoir suivis.